Oui, alors le thème étant très vaste, j'aimerais l'aborder tout d'abord du point de vue de ma discipline, c'est-à-dire de l'histoire de l'art, et dire, souligner combien il s'agit d'un thème actuel, comme en témoignent les publications, les très nombreux colloques, etc. Il s'agit d'un des sujets où l'art, les arts visuels en l'occurrence, sont approchés d'une manière à la fois dynamique et contextuelle, c'est-à-dire dans leur rapport avec d'autres domaines ou avec d'autres activités, et non pas, comme on a eu tendance à le faire, ou à certaines formes d'histoire de l'art ont eu tendance à le faire, de critiques d'art aussi, en insistant sur son autonomie et sur sa spécificité. De ce point de vue, je dirais que l'étude des rapports entre art et science est l'un des domaines, l'une des directions de recherche où l'histoire de l'art renoue avec les ambitions qui avaient été les siennes au début du XXe siècle. Je pense par exemple aux auteurs de l'école de Vienne ou encore à ceux du cercle d'Abi Warburg à Hambourg. Alors, dans cet intérêt pour les rapports entre l'art et la science, on peut voir une mise en cause des séparations entre domaines, par exemple les arts et les sciences, qui au fond sont des séparations souvent artificielles, voire conventionnelles, parce que les artistes du passé comme du présent ont généralement vu beaucoup plus large, ne sont pas intéressés qu'à leur domaine et qu'à leurs collègues. On peut y voir aussi, au fond, une poursuite de l'intérêt pour le plus large pour les rapports entre art et société, qui, depuis les années 60 notamment, je dirais, ont guidé une partie de l'histoire de l'art, ont soutenu la tendance à l'interdisciplinarité dans le contexte plus général du développement de ce qu'on appelait les sciences humaines, encore une fois, surtout à partir des années 60. Il s'agit d'un dialogue, d'une approche interdisciplinaire basée sur le dialogue qui n'est pas la seule. Je pense par exemple à l'importance que l'anthropologie a également prise pour l'histoire de l'art au cours des dernières années et de l'importance de cet autre dialogue. L'intérêt pour les rapports entre art et science, c'est aussi l'intérêt pour la dimension cognitive des pratiques artistiques et des œuvres d'art, la dimension qu'on appelle aujourd'hui volontiers épistémique, en empruntant notamment le terme à l'usage qu'en a fait Hans-Jürg Reinberger. Et cela inclut une dimension réflexive dans la mesure où l'histoire de l'art propose ou veut développer une étude scientifique au sens des sciences humaines, des arts visuels, et donc participe à cette interaction même entre art et science, et où il s'agit d'une discipline qui peut revendiquer une proximité avec son objet, une compétence sur cet objet, voire dans le meilleur des cas, une véritable intimité. Ce rapprochement est en quelque sorte symétrique parce que du côté de l'histoire des sciences, ou plus généralement de l'étude des sciences, je pense aussi à la sociologie des sciences ou à la philosophie des sciences, s'est développé au cours des dernières 10-20 ans un très grand intérêt, notamment pour les images, pour le rôle des images, pour le rôle de l'imagination, de la création d'images. Et je pense bien sûr aux science studies, notamment aux travaux de Bruno Latour et à la suite de Bruno Latour, qui ont joué un très grand rôle dans ce développement, y compris par le médium de l'exposition, je pense aux expositions organisées au ZKM, à Karlsruhe, et plus généralement à l'histoire des sciences, et par exemple, il suffit de signaler les travaux de Lauren Destin, de Peter Gallison, ou pour citer un historien de l'art, de Horst Bredekamp, avec les travaux dans lesquels il a démontré l'importance de l'image et de l'imaginaire chez des savants aussi divers et importants que Galilée, Leibniz ou encore Darwin. Alors c'est un domaine dans lequel j'ai plus modestement contribué avec une étude récente sur Hermann Rorschach, sur le test de Hermann Rorschach et donc l'usage psychologique des images dans un ouvrage pour lequel je fais la publicité parce qu'il vient de paraître et parce que l'une des directrices de la publication, Nina Tschoke, est parmi nous. C'est le volume intitulé « Autorität des Wissens, Kunst und Wissenschaftsgeschichte im Dialog » et donc je me permets de vous recommander. Alors cet ouvrage était l'un des résultats d'une formation doctorale en histoire de l'art dans le cadre du PRODOC, du système PRODOC du Fonds National, intitulé Art et Sciences et auquel j'ai collaboré depuis 2008 avec d'autres collègues des universités de Zurich, Fribourg, Berne, Lausanne et donc Genève. et qui a été un lieu, je pense, extrêmement fructueux, dans lequel nous avons pu encourager et accompagner des doctorants, des étudiants travaillant sur l'histoire de l'art et sur des sujets touchant également à l'histoire des sciences. Je me permets d'en profiter pour regretter que le Fonds national ait renoncé au système PRODOC, que je trouvais un excellent développement en Suisse. Ça a été un problème de conflit entre université et Fonds national. Je pense que c'est regrettable. J'espère que le nouveau système d'OCH pourra en partie permettre de reprendre ce flambeau. Je voudrais dire aussi que les universités qui considèrent que la formation est leur prérogative, que les universités, me semble-t-il, et les hautes écoles pourraient encore faire beaucoup pour encourager à leur intérieur le dialogue, l'échange et la collaboration, dans la mesure où la spécialisation et tout ce qu'il y a à faire nous encourage chacun à travailler dans nos domaines séparés. Et je pense que là, il y a un potentiel considérable qui n'est pas toujours entièrement exploité. Alors, on pourrait ajouter comme facteur d'encouragement ou de développement le rôle de la tâche de recherche attribuée aux hautes écoles et le développement de ce qu'on appelle Kunst als Forschung, par exemple la recherche artistique, qui bien sûr contribue aussi à ce développement. Alors, sur le plan de l'organisation, c'est au fond l'autre volet que je voudrais très brièvement aborder, je voudrais dire donc que cette actualité, que cette richesse, que cette fertilité sont extrêmement réjouissantes et demandent à être en effet soutenues, encouragées de toutes sortes de manières, et je pense que nous allons continuer à en parler aujourd'hui. Je voudrais seulement ajouter un léger bémol, ou plutôt un plaidoyer en faveur du bottom-up, c'est-à-dire qu'à mon avis, ce genre de recherche, ce genre de développement, ce genre de direction devrait venir surtout des chercheurs eux-mêmes dans tous les domaines, des artistes aussi bien que des scientifiques, car si l'interdisciplinarité devient une obligation, si par exemple le domaine des rapports entre arts et sciences devient la seule façon d'obtenir les moyens de faire de l'art ou de faire de la science ou d'étudier ces domaines, le risque que se développe une forme d'opportunisme sur lequel je ne porte aucun jugement de valeur est grand, c'est-à-dire que ça va se développer parce que c'est là qu'on peut obtenir des moyens et à mon avis cela entraîne une baisse de qualité. Je voudrais dire aussi un mot, tout en soutenant l'interdisciplinarité qui m'a toujours attiré, et j'ai toujours essayé de travailler dans cette direction-là, il y a quand même un mot à dire en faveur des disciplines aussi, parce que l'affaiblissement des disciplines peut aussi signifier une forme de de-skilling. Travailler dans l'interdisciplinaire, ça demande plus de compétences, pas moins de compétences. Et il faut absolument éviter que cela serve à certains à essayer d'échapper au jugement d'évaluation, de vérification des compétences spécifiques à chaque discipline. Les disciplines sont nécessaires, elles sont le terrain sur lesquels on peut fonder l'interdisciplinarité, qui est d'abord un dialogue entre disciplines. Donc je dirais que là, à mon avis, il faut être prudent et il ne faut pas oublier non plus, du point de vue du soutien aux carrières, qu'on peut soutenir l'interdisciplinarité chez les jeunes chercheurs, mais que quand ils chercheront des postes, ils devront réentrer dans les disciplines qui évoluent plus lentement, pas seulement pour de mauvaises raisons, et donc il faut veiller aussi à ce qu'ils aient à ce moment-là le profil, les compétences nécessaires et qu'ils aient pu les prouver. Enfin, je voudrais dire que, encore une fois, la recherche, à mon avis, elle est faite par les chercheurs et les chercheuses, bien entendu, et qu'il faut toujours se méfier un peu de la planification et de l'organisation, même si, bien sûr, elles sont nécessaires. À ce sujet, je voudrais citer une conférence récente de Gottfried Schatz, que j'ai lue dans le journal Max Planck Forschung, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui dit très clairement des choses qui me paraissent importantes. Schatz souligne le fait qu'on tend à identifier, et selon lui c'est un problème spécialement européen, on tend à identifier la science avec le savoir, Wissenschaft gleich Wissen, et il dit ce n'est pas le cas. La science produit du savoir, mais elle lutte toujours contre le savoir, et en fait la science va vers le non-savoir, elle doit produire du Unwissen. Alors, à ce sujet-là, je crois que j'ai encore le temps, n'est-ce pas, une minute, ça va très bien, pour donner le dernier mot à Gottfried Schatz, que je vais simplement citer en allemand en l'occurrence. Europas Wissenschaft leidet unter dem Irrglauben, Forschung werde innovativer, wenn man ihr ein konkretes und enges Ziel vorschreibt. Eine fatale Folge dieses Irrglaubens sind Programme für Grundlagenforschung, welche die Forschenden zwingen, sich auf relevante Probleme zu konzentrieren. Waldsterben, AIDS, Gender Studies, Krebs oder Klimaveränderung. Diese politisch motivierte Grundlagenforschung wird auch orientierte Forschung genannt. Oft schreibt sie den Forschenden vor, als Netzwerk zu arbeiten, deren Partner nach Geschlecht, Sprache oder geografischer Lage ausgewogen sind. Ça, c'est un danger en Suisse spécialement fort. Es ist jedoch unsinnig zu glauben, Grundlagenforschung müsse fokussiert, relevant oder interdisziplinär sein und in von oben verordneten Netzwerken erfolgen. Innovative Forschung schafft sich erst ihre eigenen Ziele und Methoden. Wenn man diese von Anfang an festlegt, kann die Forschung gar nicht innovativ sein. Innovation ist nur sehr begrenzt planbar und wird von einzelnen Querdenkern getrieben. Dies hat nichts mit wissenschaftlicher Arroganz zu tun, sondern mit den besonderen Gesetzen und der Verlässlichkeit menschlicher Kreativität. Ende Zitat. Ich vous remercie pour votre attention.